L'histoire est comme un clin d'œil furtif aux conséquences parfois inattendues. Clin d'œil à l'histoire,
une émission présentée par Raphaël
et Ben le samedi matin à 11h
sur Radio Bartas 107 FM. Le 15 août 1769 en Corse naissait Napoléon Buonaparte, celui qui allait devenir au début du 19e siècle l'empereur des Français. Nous avons vu lors des deux premiers épisodes que, de clin d'œil à l'histoire qu'on lui avait consacré à l'occasion des 200 ans de sa mort, son ascension pour accéder au pouvoir suprême, l'apogée de son règne ainsi que l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Maître de l'Europe en 1810 après de grandes victoires comme Austerlitz, sa politique rencontre de nombreuses oppositions et laisse déjà poindre les premières fissures de ce modèle. Montée des nationalismes, détérioration des relations avec les alliés russes, difficultés économiques liées au blocus continental, effilochement des soutiens de Napoléon au sein même du gouvernement, réorganisation de l'armée prussienne, etc. Bref, l'hégémonie napoléonienne est fortement remise en question. Le rejet qu'il provoque un peu partout en Europe explique d'ailleurs la rapidité et la brutalité de sa chute. Ce qui va se faire en deux temps, avec sa première grande défaite contre la coalition générale du continent, puis au terme des 100 jours de son retour. Clin d'œil à l'histoire avec Raphaël, dernier épisode consacré à Napoléon, les chutes de l'aigle. Raphaël, qu'est-ce qui se passe avec la Russie ?
La Russie était depuis 1808, on l'a vu la dernière fois, une alliée de la France assez distante, on va dire, notamment avec la crise économique qui naît de la rigueur du blocus continental et qui mécontente grandement la population russe et donc son tsar, qui s'applique de moins en moins à conserver la rigueur nécessaire à la bonne marche de ce blocus. Et c'est ce qui a le don d'hériter au plus haut point Napoléon. De plus, pour absorber les effets négatifs de ce blocus, le tsar décide en 1810 de taxer les produits de luxe, le vin et l'eau de vie venant de France. Enfin, l'empereur des Français reproche aux Russes de ne pas leur être venu en aide en 1809 lors de la guerre contre l'Autriche.
Bon, certes, les relations sont de plus en plus tendues entre les deux, mais qu'est-ce qui va déclencher une guerre ?
Les tensions se cristallisent surtout autour de la question polonaise. Le Grand-Duché de Varsovie est un état vassal de l'Empire français. Or, la création de ce duché en 1809 sur les cendres du Saint-Empire romain germanique laisse croire aux patriotes polonais qu'un état regroupant leur population pourrait voir le jour. Le tsar Alexandre Ier craint que ce mouvement nationaliste ne contamine sa minorité polonaise installée sur les marges occidentales de son territoire. Il tente donc par tous les moyens de convaincre Napoléon de renoncer au Grand-Duché de Varsovie, sans succès. En juin 1812, les tensions sont telles que c'est la rupture.
Et là, c'est la défaite cinglante pour les armées de Napoléon.
Et oui, Napoléon avait pourtant mis les petits plats dans les grands pour préparer une invasion de la Russie. Il prélève des contingents militaires chez tous ses alliés qui répondent sans aucun enthousiasme à son appel. Au total, 678 000 hommes, dont deux tiers ne sont pas français, sont ainsi mobilisés et partent pour la Russie. Ils entament alors une longue marche vers Moscou durant l'été 1812. Les Russes refusent le combat en préférant opter pour une retraite et en menant la politique dite de la terre brûlée. Et pendant ce temps, la grande armée est touchée par la maladie et de multiples désertions de ses soldats étrangers qui n'ont aucune envie de se rendre en Russie pour se battre au nom de l'Empire français qu'ils détestent. Les deux armées se rencontrent finalement le 13 septembre à Borodino, près de Moscou. Elle est rude et très meurtrière et se conclut par la difficile victoire des Français qui en profitent pour s'emparer de la capitale russe. Cependant, le tsar refuse de négocier et Moscou est incendiée. Napoléon, sans ressources, est contraint de se retirer à cause d'un hiver précoce et extrêmement rigoureux. Et c'est cette retraite qui est une véritable catastrophe. Harcelé par les Russes, mourant de froid et de faim, la traversée du fleuve Bérézina, ce qui est un petit fleuve qui traverse l'actuel pays de la Biélorussie. Cette traversée de la Bérézina est absolument terrible. 250 000 soldats y meurent et 125 000 sont faits prisonniers. La grande armée de Napoléon n'est plus.
D'où l'expression, c'est la Bérézina. Quelles sont les conséquences de ce désastre, justement ?
Elles sont multiples. En premier lieu, la France se trouve militairement très affaiblie. Napoléon se voit un peu plus isolé au sein de son gouvernement, voire même contesté, comme l'illustre la conspiration du général Mallet, qui a lieu en octobre 1812. Les alliés de la France, comme la Prusse et l'Autriche, se détournent complètement de la France et permettent aux armées russes de traverser leurs terres. Ces derniers, profitant de la débâcle, reprennent le contrôle de la Pologne et progressent jusqu'au fleuve de l'Elbe. Enfin, les peuples soumis à l'Empire constatent avec cette défaite que Napoléon n'est pas invincible. Toute l'Europe tressaille à cette idée, ce qui se traduit en fait par un regain des mouvements nationalistes un petit peu partout.
On voit donc, Raphaël, que 1812 est un véritable tournant. Quelles sont les prochaines étapes du crépuscule de l'Empire napoléonien ?
Cette faille que laisse entrevoir Napoléon donne un nouvel élan à tous ses adversaires qui forment ensemble une nouvelle grande coalition. Mais à la différence de celle de 1793, cette fois les souverains européens disposent du soutien plein et entier de toute la population, dans un élan patriotique et nationaliste contre l'impérialisme français. Résultat, l'année 1813 est aussi désastreuse sur un plan militaire. Sur la péninsule ibérique, les Anglais, déjà installés au Portugal, chassent définitivement Joseph, le frère de Napoléon, qui était à Madrid. Les Français reculent jusqu'aux confins des Pyrénées. La Prusse, avec le soutien de la Russie tsariste, se soulève, remobilise ses forces et reprend une très grande partie de l'Allemagne. Les quelques princes alliés que pouvait encore y avoir Napoléon l'abandonnent. La Hollande, les États de l'Église, l'autorité sur la Suisse sont également perdus. Résultat, au tout début de l'année 1814, la France est complètement acculée, ses ennemis campent sur ses frontières. De plus, Napoléon ne dispose plus du soutien de la population, épuisé par des guerres incessantes et l'isolement économique, qui provoque d'ailleurs une hausse des impôts.
La France est donc véritablement au bord de l'abîme. Quel va être le coup de grâce ?
Mais les batailles et les pillages sur le sol français se succèdent pendant tout l'hiver 1814. Napoléon résiste comme il peut et ralentit aussi bien que possible l'avancée de tous ses adversaires, essentiellement celle de l'anglais le duc de Wellington et du prussien Blücher. Puis finalement, Paris est prise le 31 mars 1814 en l'absence de l'aigle.
Qu'est-ce qu'il advient alors de l'empereur, de l'empire ? Quel est le sort que les vainqueurs réservent à Napoléon ?
Mais les rois de la coalition hésitent. Ils ne savent pas s'il faut négocier avec Napoléon, avec son héritier, ou alors avec le général Bernadotte, qui est un ancien maréchal d'Empire qui s'est rallié à la grande coalition de 1813. Finalement, celui qui fait pencher la balance en la faveur de l'éviction totale de Napoléon est l'un de ses plus anciens soutiens, son ancien bras droit et ministre des Affaires étrangères, Talleyrand, qui est appuyé par des royalistes français.
Talleyrand, quel personnage. Alors, c'était un fin politique connu de tous hein, pour être aussi un grand manipulateur, comme, tiens d'ailleurs, cette illustre scène du film Napoléon de Sacha Guitry, réalisé en 1955, scène où Napoléon et Talleyrand se disputent, après que ce dernier ait refusé de redevenir le ministre des Affaires extérieures de Napoléon.
Voulez-vous que je vous dise ce que vous êtes ?
Vous allez vous tromper encore.
Je ne crois pas ! Vous êtes un voleur, un homme sans foi. Vous ne croyez pas en Dieu, il n'y a rien pour vous de sacré. Vous vendriez votre père.
C'est très exagéré.
Exagéré ?
Oui, sire. Et tout ce qui est exagéré est insignifiant.
Insignifiant ? Je vous briserai, vous m'entendez ? Comme je brise sa mère.
C'est bien possible.
Ah, pourquoi ne vous ai-je pas fait pendre aux grilles du carrousel ?
Je voulais toujours vous le demander, là.
Prenez garde, monsieur !
Vous ne me faites pas peur. Non, sire. Je suis peut-être le seul homme au monde à qui vous ne fassiez pas peur.
Traître !
Mais non, je ne vous trahis pas, sire. Je vous abandonne à ce destin funeste. Vous étiez pourtant le maître encore il y a 6 mois.
Lâche !
Mais non, justement. Songez au risque que je cours en m'opposant à vos desseins. Est-ce que je ne perds pas tout en vous répondant non ? Mais ma vie elle-même est en danger. Vous m'en avez avisé de la façon la plus cordiale tout à l'heure. Non, ni traître, ni lâche. Intelligence et tout. Oui, et c'est cela qui vous exaspère.
Vous vous croyez plus intelligent que moi ?
Ah oui, mais ne me comparez pas à vous, sire. Vous êtes un homme de génie. Que dis-je, un homme ? Un être fabuleux, comme on n'en vit jamais. Et même il se pourrait qu'une issue désastreuse ou tragique ou lugubre, servit votre légende? Oui. Peut-être vaut-il mieux que l'Europe entière, liguée contre vous, vous poursuive, vous cerne, à la fin vous enchaîne et vous immortalise. Ne le pensez-vous pas?
Je l'ai pensé parfois.
Que j'aime à vous l'entendre dire. Car la France, alors, dans tout cela, que devient-elle? Et ne comprenez-vous pas que vous l'entraînez dans votre chute? C'est moi que vous traitez de traître. Replacez les Bourbons sur le trône d'Espagne et tendez la main à l'Angleterre.
Jamais!
Jamais?
Jamais. Monsieur Talleyrand.
Sire.
Depuis combien d'années conspirez-vous contre moi?
Sire, je n'ai jamais conspiré qu'aux époques où j'avais la majorité de la France pour complice et où je cherchais avec elle le salut de la patrie. Vos injures ne peuvent rien changer à la vérité des faits. Il n'y a jamais eu de conspirateur dangereux contre vous que vous-même. Je suis de votre majesté le très humble et très obéissant serviteur.
Alors, vous êtes de la merde dans un bas de soie!
Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107 FM. Talleyrand, personnage aux mille pensées, aux mille visages. Raphaël, comment est-ce qu'il a intrigué pour faire tomber Napoléon en mars 1814?
Il a manœuvré de façon très habile, comme à son habitude. Le 28 mars 1814, alors que Paris est sous la menace des armées prussiennes et anglaises et que Napoléon est en campagne en province, le conseil de régence décide d'évacuer la cour. L'impératrice quitte la ville. Talleyrand reste alors le seul véritable chef de la capitale et convainc le maréchal Marmont, resté pour défendre la ville, de capituler le 30 mars. Le lendemain, le roi de Prusse et le tsar entrent dans Paris et s'installent dans l'hôtel particulier de Talleyrand. Il parlemente avec eux et leur explique, je cite, « La République est une impossibilité, la régence, Bernadotte, sont une intrigue, les Bourbons sont seuls un principe. » Pour les rassurer, il leur promet aussi d'obtenir l'accord du Sénat. Et pour cause, le 6 avril 1814, la déchéance de Napoléon est proclamée et un nouveau gouvernement provisoire est constitué. La restauration est faite. L'empereur, abandonné de tous, y compris de Marmont et de Ney, est contraint de signer le traité de Fontainebleau qui lui permet de se retirer sur l'île d'Elbe. Le 23 avril 1814, l'armistice est signé entre le nouveau gouvernement et les membres de la coalition. La France est contrainte de restituer toutes ses places fortes situées hors du territoire. Le traité de Paris du 30 mai 1814 ramène les frontières à ce qu'elles étaient en 1792. Ainsi, tous les gains territoriaux permis par les campagnes napoléoniennes sont annulés, complètement effacés.
Toutefois, Raphaël, l'aventure napoléonienne va pas s'arrêter là, puisque celui-ci tente de revenir moins d'un an après sa chute. Alors comment et pourquoi revient-il au pouvoir?
Le traité de Paris est vécu comme une véritable humiliation par les Français qui s'ajoute à la grande impopularité du nouveau Bourbon, Louis XVIII, réinstallé sur le trône par la coalition. Certes, la paix est revenue, mais les émigrés de la Révolution aussi rentrent au pays et réclament tous les biens qui leur avaient été confisqués pendant la Révolution. Ainsi, de nombreux nostalgiques du bonapartisme s'agitent. Napoléon, quant à lui, s'ennuie sur l'île d'Elbe et s'inquiète car il sait que Talleyrand fait tout en coulisses pour l'éloigner davantage de la France. Il tente donc de revenir aux affaires à la fin de l'hiver 1815.
Clin d'œil à l'histoire sur Radio Bartas 107 FM.
Le retour de Napoléon se fait dans le plus grand secret et est une menace directe pour la monarchie restaurée de Louis XVIII, comme le montre cet extrait du livre d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo.
Chapitre 11. L'ogre de Corse.
Louis XVIII, à l'aspect de ce visage bouleversé, repoussa violemment la table devant laquelle il se trouvait.
Qu'avez-vous donc, monsieur le baron? Vous paraissez tout bouleversé. Ce trouble, cette hésitation, ont-ils un rapport à ce que disait monsieur de Blacas? Et à ce que vient de me confirmer monsieur de Villefort?
De son côté, monsieur de Blacas s'approchait vivement du baron, mais la terreur du courtisan empêchait de triompher l'orgueil de l'homme d'État. En effet, en pareille circonstance, il était bien autrement avantageux pour lui d'être humilié par le préfet de police que de l'humilier sur un pareil sujet.
Sire.
Eh bien!
Le ministre de la police, cédant alors à un mouvement de désespoir, alla se précipiter aux pieds de Louis XVIII, qui recula d'un pas en fronçant le sourcil.
Parlerez-vous?
Ah, oh, sire, sire, quel affreux malheur! Suis-je assez à plaindre? Je ne m'en consolerai jamais.
Monsieur, je vous ordonne de parler.
Bien. Sire, l'usurpateur a quitté l'île d'Elbe le 28 février et a débarqué le 1er mars.
Où cela ?
En France, près d'Antibes, au golfe Juan.
L'usurpateur a débarqué en France ? Près d'Antibes, au golfe Juan ? À 250 000 lieues de Paris ? Le 1er mars ? Et vous apprenez cette nouvelle aujourd'hui seulement 3 mars ? Et monsieur, ce que vous me dites là est impossible. On vous aura fait un faux rapport. Ou bien vous êtes fou.
Génial. Louis XVIII fit un geste indicible de colère et d'effroi et se dressa tout debout comme si un coup imprévu l'avait frappé en même temps au cœur et au visage.
En France ? L'usurpateur en France ? Mais on ne veillait donc pas sur cet homme ? Mais qui sait si on était d'accord avec lui ?
Oh, sire, ce n'est pas un homme comme Dandré que l'on peut accuser de trahison. Sire, nous étions tous aveugles et le ministre de la police partageait l'aveuglement général, voilà tout !
Parlez, monsieur, parlez hardiment. Vous seul nous avez prévenu du mal, aidez-nous à y chercher le remède.
Sire, l'usurpateur est détesté dans le Midi. Il me semble que s'il se hasarde dans le Midi, on peut facilement soulever contre lui la province et le Languedoc. Mais il s'avance par Gap et Sisteron.
Il s'avance. Il marche donc sur Paris ?
Le ministre de la police garda un silence qui équivalait au plus complet aveu.
Et les Dauphinés, monsieur ? Croyez-vous qu'on puisse le soulever comme la Provence ?
Sire, je suis fâché de dire à votre majesté une vérité cruelle, mais l'esprit du Dauphiné est loin de valoir celui de la Provence et du Languedoc. Les montagnards sont bonapartistes, sire.
Allons, il était bien renseigné. Et combien d'hommes a-t-il avec lui ?
Sire, je ne sais.
Comment vous ne savez ? Vous avez oublié de vous informer sur ces circonstances ? Il est vrai qu'elle est de peu d'importance.
Sire, je ne pouvais m'en informer. La dépêche portait seulement l'annonce du débarquement et de la route prise par l'usurpateur.
Et comment donc vous est parvenue cette dépêche ?
Par le télégraphe.
Louis XVIII fit un pas en avant et croisa les bras comme eût fait Napoléon.
Ainsi, 7 armées coalisées auront renversé cet homme. Un miracle du ciel m'aura replacé sur le trône de mes pères après 25 ans d'exil. J'aurai pendant ces 25 ans étudié, sondé, analysé les hommes et les choses de cette France qui m'était promise pour qu'arriver au but de tous mes vœux, une force que je tenais entre mes mains éclate et me brise.
Sire, c'est de la fatalité.
Mais ce que disaient nos ennemis de nous était donc vrai. Rien appris, rien oublié. Si j'étais trahi comme lui, encore je me consolerais, mais être au milieu de gens élevés par moi aux dignités, qui devaient veiller sur moi plus précieusement que sur eux-mêmes, car ma fortune, c'est la leur, avant moi ils n'étaient rien, après moi ils ne seront rien, et périr misérablement par incapacité, par ineptie. Ah oui, monsieur, vous avez bien raison, c'est de la fatalité.
Le ministre se tenait courbé sous cet effrayant anathème. Monsieur de Blacas essuyait son front couvert de sueur. Villefort souriait intérieurement, car il sentait grandir son importance.
Tomber, qui du premier coup d'œil avait sondé le précipice où penchait la monarchie. Tomber et apprendre sa chute par le télégraphe. Oh, j'aimerais mieux monter sur l'échafaud de mon frère Louis XVI que de descendre ainsi l'escalier des Tuileries, chassé par le ridicule. Le ridicule, monsieur, vous ne savez pas ce que c'est en France, et cependant vous devriez le savoir.
Clin d'œil à l'histoire sur Radio Bartas 107 FM.
Bon, Raphaël, on vient de comprendre un peu tout ce qui se passe hein, grâce à cet extrait d'Alexandre Dumas du livre Monte Cristo, l'ogre de Corse, le chapitre 11. Qu'est-ce qui se passe ensuite ?
À partir de Grenoble, Napoléon entame une marche triomphale vers Paris qu'il atteint le 20 mars 1815 avec l'appui et l'enthousiasme de la population. Louis XVIII, lui, fuit vers Gand en Belgique. Napoléon bénéficie de l'adhésion du peuple et de l'armée, qui voilà l'occasion de laver l'affront du traité de Paris. Seuls les royalistes et les bourgeois, qui craignent un retour de la guerre et une nouvelle invasion, sont contre ce retour de l'aigle. Une nouvelle constitution est rédigée, et elle est validée par un plébiscite, bien qu'avec une faveur modérée. Face à lui, les monarchies européennes réagissent immédiatement. Une nouvelle coalition se forme dès le 25 mars et marche sur Paris. Les Prussiens sont défaits à 2 reprises, mais la bataille de Waterloo, le 18 juin 1815, est une défaite majeure pour l'armée de Napoléon. La résistance acharnée de Wellington permet aux armées prussiennes de Blücher d'intervenir.
Sabre au clair, ce maréchal français mène une charge contre l'armée britannique. Le 18 juin 1815, la plaine de Waterloo est le théâtre de la dernière bataille de Napoléon et surtout son ultime défaite. Face à face, les troupes de l'empereur et celles du duc de Wellington, deux armées de 70 000 hommes chacune.
Napoléon a un plan génial. Tout sur le papier est prêt pour que ce soit une grande victoire. À partir du moment où on va commencer à exécuter le plan, toutes les choses vont commencer à se déglinguer.
Car les soldats français sont épuisés, trempés par une nuit passée sous la pluie. Et Napoléon, certain de sa victoire, n'a même pas jugé bon d'étudier le terrain.
Les troupes anglaises étaient entièrement cachées à la vue. Napoléon ne savait pas où étaient les troupes ennemies. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de Wellington, c'est qu'il cachait ses troupes.
La bataille de Waterloo se jouera dans ces bois et dans ces prés, qui encore aujourd'hui n'ont presque pas changé.
Il y a précisément 200 ans, dans cette gigantesque plaine, 200 000 soldats se sont affrontés toute la journée. Et le soir venu, dans ces champs, il y avait plus de 10 000 morts.
Autre erreur, l'armée napoléonienne s'entête à vouloir conquérir cette ferme, située au milieu du champ de bataille. Peine perdue, toute la journée, les Britanniques repoussent et massacrent les Français.
Ils arrivent et puis ils voient ces bâtiments et on leur tire dessus. Ce fut ici vraiment un carnage. Ça a été une hécatombe, les soldats français sont tombés par centaines.
En fin d'après-midi, c'est le coup de grâce. Par surprise, l'armée prussienne déferle sur les troupes impériales. Napoléon a perdu la bataille et la France vient de changer de destin.
Waterloo, c'est la fin de la grande lutte franco-anglaise qui a duré pendant plusieurs siècles. Elle se termine par la victoire de l'Angleterre et l'Angleterre devient, au XIXe siècle, la plus grande puissance probablement de l'histoire de l'humanité.
Après cette défaite et abandonné par ses derniers soutiens, Napoléon est sommé d'abdiquer par le Sénat. Il se retire à Rochefort, puis est exilé, comme tout le monde sait, sur l'île de Sainte-Hélène, au plein milieu de l'océan Atlantique. Il y meurt le 5 mai 1821.
La France, quant à elle, est occupée par plus d'un million de soldats étrangers. Louis XVIII est contraint de céder des positions stratégiques importantes lors de la signature d'un second traité de Paris. L'aventure napoléonienne est cette fois définitivement terminée. Son héritage militaire est lui-même réduit à néant, puisque les vainqueurs se rassemblent lors du congrès de Vienne placé sous l'égide de Metternich pour rétablir l'ordre européen et se prémunir de toute révolte pour le futur. À travers ce traité, ce n'est pas uniquement contre l'aventure napoléonienne que veulent se défendre les puissances européennes, mais c'est aussi contre les troubles provoqués par la Révolution française et ses principes qui ont pu rencontrer des échos un peu partout en Europe.
Mais l'expérience du Premier Empire avec ses occupations, son autoritarisme, a quand même permis l'émergence de grands mouvements nationalistes. Ce sont eux, désormais, qui contestent le monarchisme absolu et l'impérialisme des grandes puissances russes, prussiennes ou encore autrichiennes. Paradoxalement, c'est sans doute là la plus grande trace laissée par le passage de Napoléon à l'étranger. Les révolutions belges, grecques ou encore polonaises sont les conséquences du réveil patriotique de ces peuples qui ne veulent plus qu'une autorité supérieure puisse présider leur destin. C'est exactement la thématique qui est reprise à la mi du 19e siècle lors de ce qu'on a appelé le printemps des peuples. C'était le dernier épisode consacré à Napoléon, les chutes de l'aigle, avec Raphaël. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur radiobartas.net. On se retrouve fin octobre pour une nouvelle émission consacrée au jeudi noir, au krach boursier 1929. Changement de sujet. À bientôt sur Radio Bartas 107 FM.